des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, une rencontre entre deux auteurs assez rares, discrets peut-être, et on se pince d'ailleurs en disant cela, tant leurs textes, eux, nous font de l'œil, nous appellent, nous mordent, nous font terriblement plaisir. Oui, on en a pris beaucoup en lisant Christophe Paviot et Joseph Incardona. Bonjour Christophe Paviot.
Bonjour et merci.
Bonjour Joseph Incardona.
Bonjour.
Deux auteurs qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre, peut-être parce qu'ils ne font pas les intéressants, ils n'en ont pas besoin, ils le sont intéressants. Deux voix qu'on est très heureux de vous faire entendre, tant, je le disais, leurs textes sont romanesques, vivants, organiques, dépaysants, tambour battant, drôle aussi dans les libertés qu'ils prennent avec les convenances. Christophe Paviot, vous êtes l'auteur de Le ciel n'aime pas le bleu, qui fut un de mes chocs. C'était un roman paysan, avec une
très
histoire,
rural,
voilà. Et un roman violent avec des phrases qui fouettaient au sang, parfum du sel et de la terre. Depuis, il y a eu d'autres romans, toujours sonnants et jamais trébuchants. Et vous revenez, il y en a eu 12, hein, c'est ça ? C'est le 12e.
C'est le 12e.
C'est le 12e. Et vous revenez avec L'horizon à main nue chez Lattès, loin de la Bretagne. C'est un roman qui nous emmène au Texas dans les années 80, fin des années 80, début 90.
Oui.
Dans une famille où on chasse le rattlesnake, le serpent à sonnette.
Ouais.
Une famille où plutôt ce qu'il en reste depuis la mort du père, et ce qu'il en reste, c'est Julia, la mère Courage, et les deux frères Howard et Gary, l'un beau comme un dieu, l'autre laid comme un pou, mais qui plaît quand même.
Malgré tout.
Mais qui tous deux maîtrisent l'art de capturer donc les reptiles, les crotales. On est plongé dans des scènes hallucinantes, notamment au Roundup de Sweetwater, la plus grande foire aux serpents à sonnette de la région. Et on va suivre la vie de ces deux gamins, puis adolescents, puis jeunes adultes, dans leur éducation sentimentale et criminelle, dans un parfum de poussière, d'ouest, de billets verts. C'est passionnant, c'est très cinématographique, c'est très tenu. Et quand je dis cinématographique, c'est au fond parce que c'est littéraire, parce qu'en fait, les mots ont vraiment de la chair. Alors, que diable êtes-vous allé faire dans cette fosse à serpents, Christophe Paviot? Qu'est-ce qui vous intéressait?
L'idée initiale, c'était de faire des braquages avec des serpents à sonnette, parce que tout simplement, ça ne sonne pas dans les détecteurs de métaux.
Mmh. Et donc, c'est ça pratique. L'idée, oui, parce qu'il y a des braquages. Hein.
Voilà, ouais. Donc il y a des braquages, donc je dévoile un petit peu, mais c'est pas tout le contenu du livre ne tourne pas autour des braquages.
Ouais. Mais c'était ça, braquage,
l'idée initiale, c'est ça, faire des braquages avec des serpents à sonnette, et on arrive avec un bidon rempli de serpents, on le balance au milieu du hall de la banque, et on a des pinces qui permettent de tenir tout le monde en respect.
Ouais. Donc c'est ça qui a nécessité le
et après,
déplacement.
J'ai élaboré une histoire avec deux frères, un rapport entre. Enfin, disons que c'est l'idée de la porosité entre le bien et le mal. On s'attache à eux parce qu'il y a une histoire familiale, on s'attache à eux et on a envie de les détester à d'autres instants. Voilà, quoi, c'était le point de départ.
Point de départ. C'est quoi l'horizon à main nue ?
Alors, l'horizon à main nue.
Curieux titre, beau, mais curieux. Mais, ouais.
L'horizon à main nue, c'est deux petits gars qui naissent pas au meilleur endroit et qui vont ramer. Ils ont pas forcément de but non plus et d'ambition, mais ils vont quand même devoir ramer, ils vont devoir s'escrimer pour obtenir tout ce qu'ils devront obtenir par la suite.
Joseph Incardona, 12 romans aussi, c'est le 12e.
Oui.
Alors, vous êtes suisse.
Oui.
voilà. C'est important, non, parce
c'est
que ça
fait,
se passe à
dit.
Genève.
Alors, Suisse et italien
voilà.
aussi.
Ouais. Suisse, oui, d'origine italienne.
J'ai deux passeports.
Et l'Italie compte beaucoup. D'ailleurs, un personnage aussi à ce pédigré, si j'ose dire, Aldo, avec qui on entre dans ce livre. Alors, on vous doit, je rappelle quand même, un roman noir qui était excellent, dont le titre était Chaleur, et qui se déroulait lors d'un championnat du monde de sauna.
Ouais, voilà, ça
existe, ça.
Ça a existé, mais depuis le drame en 2010 à Enola, c'est
interdit.
Voilà, mais je me suis basé sur ce fait divers.
Il fallait rester le plus longtemps possible.
Voilà, 200 concurrents et sur 3 jours des qualifications jusqu'à quand les 7 derniers sont en finale et puis le dernier qui sort a gagné. Ouais. Et là, en l'occurrence, les deux derniers, personne voulait sortir. Et puis un est mort et l'autre est handicapé à vie. Poumon brûlé, brûlure au troisième degré, et ce fait divers était le point de départ de Chaleur.
Du livre. Il y a eu aussi, derrière les panneaux, il y a des hommes qui vous avaient valu le Grand Prix de littérature policière, et là vous en publiez un nouveau, La soustraction des possibles, c'est chez Finitude. Ça ressemble à un titre de Houellebecq, sauf que c'est une référence à l'Arte Povera.
Oui, Michelangelo Pistoletto disait, c'est un artiste italien qui est encore vivant aujourd'hui, qui est très âgé, disait que chaque œuvre d'art n'est pas au fond une œuvre en plus, donner au monde, mais une œuvre en moins, quelque chose qu'on peut faire en moins. Et au fond, ces deux personnages...
En moins, c'est-à-dire quand on est artiste, c'est déjà une œuvre de fait, c'est ça?
Voilà, c'est-à-dire que l'œuvre arrive et il y a quelque chose en moins qu'on peut faire.
Ouais.
Et au fond, vu que mon roman est exactement l'inverse, où on est un peu comme chez Christophe, deux outsiders qui veulent absolument arriver, qui viennent de conditions modestes, ils veulent accumuler, ça pourrait s'appeler l'avidité, eh bien, en réalité, chaque geste, chaque acte les mène vers une fin, vers quelque chose d'inexorable. Et chaque geste, chaque action, chaque chose qu'ils font les soustrait à leur propre vie et les emmène dans une sorte d'entonnoir, les accule vers une fin qui les attend.
Alors je disais Arte Povera, un paradoxe, hein, puisqu'on est chez les riches, pour le coup, et même les super riches. D'ailleurs, le livre ressemble à un lingot d'or, hein, il est tout doré. Ce monde des super riches, c'est le monde que convoite Aldo Bianchi, professeur de tennis au physique d'André Agassi dans le Genève de la fin des années 80, on est en 89.
Ouais, exactement, hein, voilà. Exactement.
C'est son passeport pour accéder aux villas du bord du lac, ce sont les femmes. Les femmes qu'il charme, qu'il subjugue comme on monte au filet. C'est Odile, par exemple, la femme de René Langlois, richissime banquier, qui lui propose assez vite de transporter des sacs remplis de billets entre la France et la Suisse. Il va croiser la route de Svetlana, elle est fondée de pouvoir chez UBS, une grande banque. Elle est d'origine slovaque et elle aussi veut s'en sortir par tous les moyens. Ils se reconnaissent, ils font alliance, voire un peu plus, pour tenter de monter un énorme coup. Alors, il n'y a pas de serpent à sonnette, mais il y a des gros reptiles, quand même. Voilà.
Il y a des crocodiles.
Apparence humaine, exactement. Apparence humaine. Et on en parlera tout à l'heure. Je m'arrête là pour l'instant. Dans un parfum aussi, comme je le disais pour Christophe Pavio, dans un parfum de billets verts, mais aussi de moquettes épaisses. C'est-à-dire, c'est moins la poussière du Texas que les moquettes feutrées. Les parkings aussi, en béton, au milieu des mafieux, des banquiers, des parties de golf et des Albanais qui jouent à d'autres jeux moins pacifiques. Qu'est-ce qui vous a, c'est pour ça que je disais vous êtes suisse, mais qu'est-ce qui vous a vous mené à explorer cette autre fosse à serpent, si j'ose dire, qui est non pas la finance, mais en tout cas les chemins buissonniers de la finance.
Y a adéquation entre territoire et histoire, parce que c'est pas évident. Quelque chose que je répète assez souvent, en fait, quand les gens me demandent, oui, en Suisse, qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire? Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui convient parfaitement au biotope, on va dire, hein, vu qu'on parle de reptiles. Et donc là, il y a quelque chose qui, derrière l'apparence feutrée, derrière le luxe, c'est vrai que mes personnages, habituellement, sur d'autres livres, sont plutôt des gens de inadaptés, des gens un petit peu en marge, etc. Puis là, en fait, je me suis attaqué au monde du luxe, au monde des grandes richesses. Et c'est vrai que là, derrière la façade, derrière le miroir, contrairement au livre de Christophe, on est vraiment dans la poussière, là. Effectivement, moquette feutrée, mais la crapulerie existe et elle est peut-être encore plus violente parce que apparemment maîtrisée. Et puis, il y a un jeu de faux-semblants. J'aimais bien cette idée presque du jeu de dupe. On fait croire qu'on n'est pas vraiment... Aucun personnage n'est vraiment qui il est, qui il montre. On croit que, et puis en fait on cache des choses, et finalement les seuls personnages qui sont vraiment eux-mêmes et qui s'assument en tant que, ce sont les truands corses en fait, qui disent voilà, nous on est comme ça.
Oui, il y a les
apprendre
corses,
à laisser.
Je disais les Albanais.
Mais il y a les Albanais
corses,
et les Corses
voilà,
aussi.
Ouais. Et on lira tout à l'heure un passage qui concerne les Corses. Les Corses et les Albanais d'ailleurs, réunis sur un yacht. voilà. Juste
à Malte.
À Malte. Juste un mot sur le titre. Oui, la soustraction des possibles. On a dit hommage à l'Arte Povera, mais c'est un livre où pourtant il y a que des additions, puisqu'il s'agit à chaque fois d'entasser les sacs de billets.
Ouais, mais c'est cette idée en fait qu'on retrouve aujourd'hui. Parce que pour moi, 89 est le départ de cette espèce de chute du mur de Berlin. Finalement, le communisme s'écroule. Et puis, c'est feu vert à l'ultralibéralisme, finalement. Et à ce moment-là, était pour moi une période charnière avec l'invention du web qui arrive au CERN de Genève, qui est donné au monde.
Ah oui, c'est ça, à Genève.
Donc, qui est Berners-Lee qui va faire cadeau à l'humanité, finalement, de ce. Et là, le
qui
monde.
Qui s'en repent aujourd'hui, hein.
Qui s'en repent,
tout à fait. On a inventé un monstre, il dit.
Exactement. Il y a cette histoire de Frankenstein qui s'échappe du laboratoire. On a dédoublé le monde. Et en fait, les problèmes sont devenus multiple et dédoublé, et on a une complexité qui fait qu'on maîtrise plus rien. Là encore, on est dans un monde, encore un monde possible pour ces personnages. C'est-à-dire, ils peuvent encore maîtriser un certain nombre de choses.
Ouais, ça, voilà. C'est les sacs de billets.
On va peut-être reparler de la physicalité de l'argent, de son côté concret.
Ah bah oui, parce que ça vous réunit tous les deux. Pourquoi la fin des années 80 ou début 90 aussi, Christophe Paviot, pour vous, finalement, le Texas, ça a peut-être pas tant évolué. Là, on parlait de avant Internet, après Internet.
Non.
Pourquoi avoir choisi cette époque?
Je voulais, c'est peut-être la musique qui a guidé ce choix. Je voulais qu'ils soient passionnés de musique pop anglaise. Eux, au milieu du Texas, passionnés de pop anglaise,
oui.
L'avènement des Smiths, des choses comme ça, des groupes comme ça, pardon, c'est pas les choses, hein, vraiment pas. Et donc, ça m'obligeait à me porter dans ces années-là. Et il y avait une chose qui me simplifiait la tâche aussi, c'est que je me disais que les banques étaient moins soumises à des moyens de détection, et ça me permettait aussi de débarquer là-dedans avec mes petits
pareil
serpents,
chez
là.
Moi.
Donc je triche un peu, mais ça me permettait surtout d'en faire des personnages décalés qui, au milieu de ce Texas poussiéreux, qui est des gens qui sont intéressés par une musique très lointaine, ouais, et très pointue dans les années 90.
Mais c'est drôle ce que vous 80, dites, en 90. Fait, on a l'impression qu'au fond, pour la fiction, c'est plus facile ou d'être dans une époque légèrement antérieure avec moins, pour l'un comme l'autre, avec moins de systèmes de détection.
C'est-à-dire oui, que
moins, pas de portable, pas de...
Ah, le portable, c'est génial d'écrire un roman sans portable, parce que dès que vous voulez mettre une tension, un suspense, le portable, ça vous met dedans, parce que, en général, il suffit que le personnage appelle les pompiers, les flics. Donc, en général, mais vous voyez ça même dans les films, en général, soit ça capte pas, soit il n'y a plus de batterie, soit il a oublié. Donc là, effectivement, c'est un soulagement, puis j'ai toujours trouvé très beau l'idée de la cabine téléphonique.
Ouais.
Donc là, les petits jetons qu'on met, les pièces de monnaie. Et puis effectivement, contrairement à mon titre, voilà, il y a plus de possibles. Il y a effectivement des choses qui maintenant seraient inimaginables dans les systèmes de détection. Et en plus, on a un argent toujours plus virtuel.
Ouais.
Alors que là, les billets circulaient beaucoup plus.
Et même moi, j'étais plus courageux que Joseph, parce que je me suis finalement frotté au portable, puisque mon histoire se déroule sur plusieurs années, décennies même. Et donc, à un moment donné, arrive le portable. Donc, je suis obligé de raconter qu'il y a des gens qui sont déjà plus au fait des choses, qui ont déjà un portable, certains personnages de banque. Donc, j'ai cette transition. Je suis en plein dans cette transition-là. Donc, je suis obligé d'expliquer un peu ce truc-là.
Merci à tous les deux de participer à cette émission. On est heureux de vous réunir, car vous êtes portés tous les deux dans ces livres par une sorte de plaisir mêlé de rage, d'énergie, à faire parler des gens qui apparemment sont hors du jeu, dans les marges, qui se débrouillent, qui ne veulent pas s'en laisser compter par le système. Alors, est-ce que le roman est le lieu aussi de la justice sociale? Il y a cette main brandie avec des billets de banque sur la première page de votre livre, Joseph Incardona, comme une sorte de logo, hein, la soustraction des possibles.
Oui.
Voilà, comme une sorte de logo de parti politique, quoi, un point levé qui sert à un billet. Et vos personnages, Christophe Paviot, à un moment, disent « Gardez les putois et les banquiers à distance ». Alors voilà, est-ce que le roman est le lieu de la... C'est-à-dire de la colère, mais d'exprimer une certaine forme de demande de justice sociale.
Sur ce roman-là, il y a plusieurs couches, on va dire. Il y a une histoire d'amour, parce que c'est quand même ça le moteur du roman dans son point de départ. Il y a inévitablement une critique sociale aussi, sur un état du monde, qui, en fait, en revenant 30-40 ans en arrière, on peut peut-être mieux comprendre certaines choses aujourd'hui. Il y a une réflexion sur l'écriture, sur qu'est-ce qu'écrire un roman en 2020, en fait, parce qu'il y a ça aussi. Comment on peut renouveler la forme? Pour moi, d'ailleurs, c'est toujours dans la genèse, il y a toujours la nécessité de trouver une forme et une fond qui sont en adéquation. Et un fond qui sont en adéquation. Et voilà, donc il y a plusieurs choses qui se superposent comme ça. Et effectivement, il y a aussi l'état des lieux du monde. Et on en profite pour donner deux, trois choses. Poser plus de questions que donner de réponses, et effectivement, constater, simplement dire, avec une forme d'ironie aussi. Je ne dénonce rien, je ne fais que dire des choses, et même ces personnages m'amusent parfois, parce que je trouve qu'il y a des choses, des grosses ficelles, que l'humain m'émeut, même quand il embrouille. Il y a quelque chose d'émouvant dans je parle des fourmis, ils transportent en kilofranc l'équivalent de 100 fois leur poids. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu de la comédie humaine.
On vous sent tous les deux très libres dans l'écriture, violent quand il le faut, joueur quand il le faut, sans tabou, notamment sur la question du sexe, parfois cru. C'est assez rare dans la littérature contemporaine. La plupart des écrivains ont parfois aussi des pudeurs. Est-ce qu'écrire pour vous, l'un et l'autre, s'apparente à un moyen de retrouver une certaine liberté, un peu le moment où on lâche les chiens?
Ah oui, pour moi, c'est le sens de l'écriture, c'est vraiment que ça. Je n'ai trouvé que ça. C'est un hasard total que je me sois mis à écrire. Et je ne cherche que ça, c'est la liberté. C'est comme un gars qui fait du base jump, comme moi quand je fais du windsurf ou quand on fait de l'escalade. Je ne cherche que ça. J'ai trouvé ça, c'est un peu le hasard. Mais jamais je lâcherai, c'est exceptionnel. Je suis totalement libre, je peux dire ce que je veux. Et il n'y a pas de notion de coût quand on écrit. Par exemple, quand on est sur du cinéma, tout de suite, on dit « Ah tiens, je mettrais bien. » On dit tout de suite « Hop, ah, non, là, il va faire une grue, tout ça. » Moi, si je veux, par exemple, avoir une piscine remplie de larves et il y a 15 pelleteuses qui sont en train de piocher dans les larves, c'est trois lignes, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire...
De larves,
c'est... De larves de je ne sais quoi.
Oui, oui.
Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire « où est-ce qu'on va trouver des larves ?» Non. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est une liberté sans limite, quoi. C'est vraiment...
Je partage totalement. Ouais.
Vous dites d'ailleurs, Joseph Cardona, écrire est un art du pauvre. Vous avez dit ça plusieurs fois.
Oui.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Parce qu'en fait...
Il n'y a pas de coût, quoi. Enfin, c'est ça.
Déjà, personnellement, moi, je viens de parents, ouvriers, milieu modeste, pour qui l'idée d'un conservatoire de musique ou de théâtre ou de fréquenter les beaux-arts, tout ça, c'était inimaginable. Mmh. L'idée, c'était un bon poste à la banque ou dans une poste, etc. Et puis donc, il y a une volonté d'exprimer des choses et tout. Et puis tout d'un coup, je dis l'art du pauvre parce que du moment qu'on est allé à l'école, on a appris ce qu'on appelle l'écriture administrative, on peut commencer à s'y mettre. Mmh. Alors après, il faut travailler.
Dès qu'on maîtrise un peu grammaire et syntaxe.
Voilà. Mais après, il faut y aller, ça se travaille. Ouais. C'est pour ça aussi que la littérature et le domaine de l'écriture restent aussi un grand lieu d'imposture où tout est possible, que ce soit...
Ça fait plaisir, Christophe.
On ne peut pas prendre une raquette de tennis puis se dire je vais jouer contre Nadal. Et puis, on ne peut pas se mettre derrière un piano parce qu'on a fait trois gammes. Non, par contre, dans l'écriture, tout le monde s'essaie, tout le monde peut y aller. Donc, il y a quelque chose qui est aussi sympa par rapport à ça. Puis moi, je suis quelqu'un de très autodidacte. J'aime bien apprendre tout seul, j'aime bien aller trouver les gens qui vont me donner un conseil ou dans les livres, etc. Il n'y a pas d'école pour devenir écrivain. C'est pour ça que je dis l'art du pauvre, dans ce sens-là.
Je rejoins complètement. Je me sens un imposteur tous les jours. On parlait d'être écrivain. Déjà, le mot, je trouve trop vaste, trop ambitieux, je me reconnais pas là-dedans.
Pourquoi?
Pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui ne termine pas ses phrases. Quand l'être aimé l'appelle, il cesse immédiatement tout travail d'écriture, il pose son stylo ou son ordi, il va de l'autre côté, il va voir la personne, parce qu'il sait que quand il va revenir, il va tout de suite retrouver ses sensations, il sait que ça va couler, tout est en lui, c'est là. Tandis que moi, je suis plutôt dans le cadre des gens laborieux, je suis plutôt dans ceux qui terminent leurs phrases, parce que j'ai trop peur de pas les retrouver après, quoi. Donc à partir de là, je suis pas dans cette catégorie écrivain. J'en connais, il y en a en France, il y en a partout. Je suis pas là pour faire le tri, mais en tout cas pour l'instant, peut-être qu'un jour, je ne me reconnais pas encore dans ce
dans le mot écrire. Mais art du pauvre, finalement,
ça pourrait me plaire, oui.
on continue à explorer cet art du pauvre avec vous, Joseph Cardona, et vous, Christophe Paviot. On commence par Joseph Cardona et la soustraction des possibles chez Finitude. Ensuite, finalement, vous êtes le bienvenu, Christophe Paviot.
Finalement,
réagir aussi. Vous publiez Horizon à main nue, c'est chez Lattès. Joseph Cardona, vous avez choisi comme choix musical une certaine Mina.
Oui, alors c'est une chanteuse qui est toujours vivante, mais qui a complètement disparu de la vie culturelle italienne. Elle s'est retirée. Je sais qu'elle vit au Tessin maintenant. Et elle a depuis 30 ans, on ne la voit plus. Et elle a marqué bien 30 ans de la musique italienne. Je trouve une voix extraordinaire. J'aime énormément ce qu'elle a fait. Et puis vu que c'est quand même un peu une histoire d'amour, donc j'ai proposé le Cielo in una stanza, le ciel dans une chambre, de chanson de 1961.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Quando sei qui con me, questa stanza no. Ma alberi, alberi infiniti, quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola, no, non esiste più, io restiamo qui. ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, sull'immensità del suono per te e per me.
Que c'est beau, Mina, le ciel dans une chambre. C'est le choix de Joseph Incardona qui publie La soustraction des possibles chez Finitude. Il est avec Christophe Pavio. L'horizon à main nue, c'est chez Lattès. C'est votre choix, Joseph Incardona. Vous nous en avez parlé. Comment on dit en italien ?
Il cielo in una stanza.
Voilà.
Et d'ailleurs, Mina, on peut l'avoir un tout petit moment dans le film Le Fanfaron de Dino Risi, avec Trintignant et Gassman.
Voilà.
Elle apparaît à un moment donné dans le film.
Ah, magnifique. Bon, c'est très, très, très beau. Je sais que vous êtes suisse. Bon, c'était italien, mais suisse d'ascendance italienne.
Voilà, voilà.
On vous doit, Joseph Incardona, un roman noir. C'est important, je dis ça, parce qu'il y a un jeu sur les genres dans ce nouveau livre. Un roman noir qui s'appelait Chaleur, qui se déroulait, on en parlait tout à l'heure, lors d'un championnat du monde de sauna. On a eu droit aussi à Derrière les panneaux, il y a des hommes, qui vous avez valu le grand prix de littérature policière. Et vous publiez aujourd'hui La soustraction des possibles chez Finitude. On parlait tout à l'heure d'Arte Povera, parce que La soustraction des possibles est un hommage à Michelangelo Pistoia, Toletto, l'artiste. Et paradoxe de parler d'Arte Povera puisqu'on est dans ce nouveau livre chez les super riches. On ouvre le livre avec Aldo Bianchi, qui est un professeur de tennis au physique d'André Agassi, qui a la même coupe de cheveux notamment, dans le Genève de 1989, hein, fin des années 80. Et Aldo Bianchi, bah, il a envie d'entrer dans le monde des riches, qui voit tous les jours dans ce club de tennis huppé. Et son passeport pour accéder à ce monde, ça va pas être un serpent à sonnette comme chez vous, Christophe Pavio, mais ça va être une femme, notamment Odile, la femme de René Langlois, qui est un banquier richissime, qui a besoin de quelqu'un pour transporter des valises de cash entre la France et la Suisse. Et c'est Aldo qui va s'y coller pour prendre sa com aussi, gagner plus d'argent que quand il donne des cours de tennis. Il croise la route Aldo de Svetlana, fondée de pouvoir chez UBS, donc la grande banque. Elle est d'origine slovaque. Elle aussi, elle veut s'en sortir par tous les moyens. Elle a une petite fille aussi, Luana, dont elle doit s'occuper. Elle est très belle, Svetlana. Ils se reconnaissent, les deux. Ils font alliance, même un peu plus, puisqu'ils vont essayer de monter un gros coup. Et alors, on s'arrête là, au milieu des mafieux, des banquiers, des parties de golf et des Corses et des Albanais qui jouent à d'autres jeux moins écolos, je sais pas, que le golf, en tout cas moins pacifique.
Oui.
Dans un court prologue que je voudrais lire, vous dressez la liste de tout ce que votre roman n'est pas. Il y a la fortune, mais ce n'est pas une histoire d'argent. Le crime, mais ce n'est pas une histoire de truand. Le châtiment, mais ce n'est pas une histoire de bourreau. L'amitié, mais ce n'est pas une histoire de copain. L'érotisme, mais ce n'est pas une histoire de désir. La ruse, mais ce n'est pas une histoire de trahison. La vanité, mais ce n'est pas une histoire d'ambition. Alors quoi ? Rien. Ceci est une histoire d'amour. La mienne. D'ailleurs, on se demande qui écrit ? Qui écrit ?
Oui.
Qui est ce narrateur ?
Oui, parce qu'en fait, c'est une chose que j'ai faite dans ce livre et que je ne referai plus, sinon ça deviendrait un truc. Mm. Mais c'est que je me glisse à l'intérieur de l'histoire, en tant que moi, Joseph Incardona, pas seulement en tant que narrateur omniscient. Mm. Et puis, des moments même, j'interviens comme écrivain par rapport à mes propres personnages.
Vous adressez au lecteur,
voilà,
aussi.
Et des fois, je m'adresse même à mes personnages. Mm. J'échange même des mots de temps en temps avec eux, des petits dialogues comme ça. Et puis,
il y a un autre Italien, Pirandello.
Voilà, il y a ce jeu-là, puis même par moments des lieux que j'arpentais il y a 30 ans et que j'ignorais à l'époque qu'il deviendrait le lieu où j'écrirais un roman qui serait 30 ans plus tard publié, etc. Donc il y a cette sorte de mise en abîme comme ça.
Alors
parfois.
Moi, je me suis demandé si c'était pas pour échapper au genre, aux étiquettes, parce que vous avez donné, alors dans la littérature autobiographique, hein, avec Le cul entre deux chaises, notamment, qui était votre premier
texte. Oui, premier roman,
texte.
Oui.
Et on vous a ensuite classé dans le roman noir, on disait dans le roman policier, hein, vous avez eu des prix pour ça. Là, il y a du meurtre, il y a du sexe, il y a des Albanais, des prostituées, des coups de couteau. Je dis pas des Albanais, mais c'est un motif
oui, bien
qui
sûr.
Revient.
Non,
c'est eux qui font peur. Voilà.
Ouais, parce que c'est eux qui tiennent le marché de la prostitution notamment.
Donc. Et donc il y a des coups de couteau dans les parkings, il y a des flingues, il y a des valises de cash. Mais je me suis dit, est-ce qu'il veut pas justement mettre à distance ses étiquettes parce qu'il en a marre. Donc c'est une histoire d'amour au fond, avant d'être un roman noir, un polar. Est-ce qu'il y a cette volonté-là? Couper court, je veux dire, au rayonnage, quoi, presque.
Alors bon, ça, c'est, je crois qu'on est, on est de nombreux écrivains qui luttent contre ça, en fait. Hein. Et puis, il y avait, effectivement, moi, à part trois livres qui ont été publiés dans des collections de policiers, chez Finitude, on n'est pas du tout dans ce genre de collection. C'est les romans. Moi, ce que j'appelle les romans de l'homme, comme disait Simenon, c'est sans doute le roman du tragique. Et au fond, de commencer le roman comme ça, c'est comme Magritte quand il disait ceci n'est pas une pipe. C'est une façon de dire. En même temps, ce roman, c'est tout ça, mais c'est pas ça seulement. Mmh. Alors après, voilà, selon le prisme, vous pouvez y trouver certaines choses, d'autres. Voilà, il y a l'idée de quelque chose qui se veut plus une fresque sociale, une fresque d'une époque, une petite, toute petite comédie humaine d'un tenté dans un lieu donné. Voilà, c'est ça l'idée. Alors effectivement, après, il y a tout ça qui s'en mêle. J'ai pas envie d'échapper à une étiquette ou qu'on me mette dans une étiquette. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ça. Mais il n'y a pas, effectivement, à cloisonner ce roman-là. Ça serait le limiter dans la saine ambition que j'ai de quelque chose qui soit autre chose que ça, c'est tout.
Bon, en tout cas, on est quand même dans une histoire où le crime est très présent. Je voudrais qu'on vous écoute lire justement un passage. On est sur un yacht à Malte avec Mireille Leone né Patucci.
Mireille Leone né Patucci ne sait pas s'il doit son impression de vertige à l'alcool ou au léger roulis du yacht. Ça tangue imperceptiblement, mais sur l'eau, la question de l'équilibre est toute personnelle, donc relative. À Malte, dans le grand Grand Harbour Marina de La Valette, il se traduit par un clapotis ondulant comme un tapis rouge. L'achat d'une place d'amarrage avoisinant le demi-million de dollars. Ça fait cher la coupe de champagne et Mimi a peut-être commis l'erreur d'en boire trop. Elle ne voudrait pas manquer à sa réputation à avoir l'air d'une idiote face à Adrian Berisha. Mimi inspire un grand coup, s'excuse un instant, le temps de se rendre aux toilettes, précédé par un domestique, de passer son visage sous l'eau froide et de remettre de l'ordre dans sa coiffure et ses idées, avant de revenir s'asseoir dans l'opulent salon décoré façon loukoum du Tollycraft 48. Le problème avec les Albanais, ce sont les salam aleik, la périphrase, toute cette courtoisie de miel et de façade en préambule aux affaires. Du coup, on s'égare et on boit la coupe de trop. Merde, Mimi, tu le sais pourtant. Mais on y vient. On vient toujours au noyau dur des affaires, money. Money. Par chance, Berisha parle un français correct, sa langue maternelle contient tous nos phonèmes, et Mimi ne doit pas s'imposer un effort de concentration supplémentaire. Elle se débrouille en anglais, mais elle juge que parler corse est déjà suffisant comme langue première. Et puis il y a une troisième interlocutrice, Madame Ivana, une sorte de Madame Claude Pompidolienne, la soixantaine blonde et liftée comme un revers de Björn Borg. On s'approche du centre, d'abord ce que veut Mimi. 5 filles, jeunes et belles, les plus belles que vous ayez. Madame Ivana, ici présente, fait Berisha, petit rablé, yeux noirs, calvitie prononcée, chaînette en or et croix chrétienne sertie de rubis autour du cou. Madame Ivana, ici présente, s'occupera de trouver vos filles. Je veux les meilleures, dit Mimi. Vous aurez plus que ça, des professionnels choisis par mes soins, répond Berisha. Sans état d'âme, ni hystérie, efficace et professionnelle. Elles sont dressées pour ça, intervient Madame Ivana dans un français sans accent. Si l'une d'entre elles manque à sa mission, je lui tranche personnellement la gorge. C'est suffisamment clair, demande Berisha. C'est ce que j'attends de vous, répond Mimi. On arrive au noyau dur, ce que veut Berisha. 5 000 $ par fille, ce qui nous fait 25 000, ainsi que 10 000 pour Madame Ivana. Moi, Adrian Berisha, je prends 35 000. Ça nous fait 70 000, moitié d'avance. Le reste après le contrat. J'aime les chiffres ronds et en dollars.
Merci Joseph Incardona. Voilà la soustraction des possibles alors qu'on voit qu'on additionne beaucoup dans ce livre. 5 000 fois 5, on multiplie aussi, plus 35 000 pour Monsieur Adrian Berisha et 10 000 pour Madame Ivana. Ça fait beaucoup d'argent. Vous vous amusez énormément. On disait, voilà, roman noir, histoire d'amour, mais en fait, il s'agit de jouer aussi sur les motifs, les clichés, on pourrait dire aussi du roman noir, du roman de gangster. Même si on est dans le côté gangster col blanc parfois, on est aussi dans le côté absence de col d'ailleurs.
Oui, voilà. D'ailleurs, il y a une scène où Aldo rencontre les Albanais et il est là, il est complètement novice, puis il dit mais je dois faire tous ces trucs, on dirait mais j'ai l'air ridicule. Mm. Puis les mecs, non, sont très sérieux. Il y a un code à respecter.
Justement, de jouer. Alors, il y a des codes à respecter et de jouer avec ces codes. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez particulièrement quand vous écrivez? Pour vous amuser aussi.
Ah oui, c'est un vrai plaisir. C'est difficile de se prendre au sérieux avec ces codes-là. C'est des choses qu'on a tellement vues, entendues, lues. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter comme regard un peu différent, un peu plus ironique sur ça?
Par moment, on passe au théâtre. Hein, vous changez totalement, j'allais dire, la présentation, même sur la page, hein, page 96 par exemple, dialogue entre Christophe Noir, qui est l'un des personnages, et Svetlana Novak. Il s'agirait de faire voyager ces nouveaux arrivages. Svetlana Novak, pendant combien de temps? Christophe Noir, la somme à écouler est importante. Svetlana Novak, vous parlez comme un politicien. Pendant combien de temps? Christophe Noir, les deux prochains mois, etc. Là, on est vraiment dans une page de théâtre.
Oui, oui, il y a
vous,
des...
Vous comptez le transposer sur la scène?
Non, mais j'ai joué avec ces codes de narration. À un moment donné, il y a carrément un traitement de cinéma sur un chapitre entier qui est présenté comme un traitement cinématographique, joué sur ces dialogues de façon théâtrale. Donc, il y a cette volonté de bousculer un peu tout ça, d'aller chercher des choses un petit peu différentes dans la narration. C'est aussi une façon de nous interpeller comme lecteurs, de nous tenir vivants, de nous tenir attentifs. Et puis cette grande comédie, parce que vraiment c'est une comédie tragique ce que ces personnages vivent, et donc il y a cette volonté de bousculer aussi la forme narrative.
Quel est votre rapport avec votre lecteur quand vous écrivez? Vous pensez à lui, vous lui dites je vais t'offrir un grand moment de réjouissance, de surprise, te bousculer?
Moi je fais jamais de plan, je construis pas, le livre démarre et puis au fur et à mesure il se construit tout seul. Si je me surprends pas moi-même, je pense que je peux pas surprendre le lecteur. Si moi-même j'éprouve pas une forme de plaisir dans ce que j'écris, je peux pas, à mon avis, donner du plaisir au lecteur. J'y n'y pense pas. C'est une réflexion qui peut-être va se faire dans un deuxième temps avec l'éditeur, qui veut dire attention, là peut-être ce chapitre est trop long, est-ce qu'on devrait pas peut-être poser ça là, où il manque quelque chose. Voilà, c'est une réflexion sur la dramaturgie d'ordre général qui arriverait éventuellement dans un deuxième temps avec un regard extérieur. Mais moi personnellement, non.
Et il y a différents registres de langue aussi, parce que on va pas le citer. Je vais lire d'ailleurs un autre passage dans un instant sur l'érotisme, qui est très très présent aussi dans ce livre, d'ailleurs chez vous deux, Christophe Pavieux aussi. Parfois des phrases justement comme « il y a » et vous vous mettez à énumérer de façon très courte. « On va à la ligne ». Comme dans un poème en prose, c'est à la fois du théâtre, à la fois de la poésie, des pures scènes d'action, de poursuite, des scènes qui pourraient dans un film noir comme celle qu'on vient de lire. Qu'est-ce que vous cherchez à travailler comme langue, à produire comme langue aussi pour le
lecteur? Du temps, du contre-temps, une forme de dynamique, ne pas m'enliser, ou à un moment donné, effectivement, la forme. Je crois que l'écriture, c'est tout ce que peut espérer un écrivain, justement. C'est ce dialogue secret, finalement, entre lui et son lecteur, où la forme raconte quelque chose au-delà de l'histoire même. Donc là, tout d'un coup, il y a quelque chose où peut-être d'aller peut-être plus vite sur des phrases courtes et des retours à la ligne va créer une urgence, une dynamique au-delà de la situation urgente. Quelque chose qui va s'installer un peu plus, qui va devenir un peu plus baroque, un peu plus rond, un peu plus lyrique, à un moment donné. Voilà, c'est d'avoir cette forme de liberté, et de pouvoir jouer avec les mots, avec la langue, avec la syntaxe. Il y a cette volonté d'avoir quelque chose qui s'inscrit toujours dans une nécessité. Et vu que vous parlez de l'érotisme, les scènes de sexualité sont là parce qu'elles s'inscrivent dans une nécessité du roman. Pas parce qu'à un moment donné, il faut la scène de cul ou bien la scène violente. Non, elles s'inscrivent vraiment dans quelque chose qui dit quelque chose sur les personnages. Et je suis convaincu, peut-être c'est un des rares moments dans nos quotidiens, dans nos vies, où le corps parle, le corps dit quelque chose et on le révèle dans une intimité qui est cachée au monde. Et là, c'est une façon magnifique de pouvoir entrer dans l'intimité des personnages, parce que leur sexualité dit aussi qui ils sont.
On va lire un court passage, non pas de pure sexualité, mais d'avant justement, de la montée. Vous dites, c'est pas un roman sur le désir, hein, cette espèce de remarque liminaire au départ. Il y a beaucoup de désir. On sent le désir de posséder les corps, l'argent, tout, les maisons. J'ai noté dans mes notes pour préparer cette émission, érotisme comme mutinerie, sexe comme sport de combat, pour paraphraser Bourdieu, qui c'était plutôt la sociologie. C'est important justement de faire sentir que l'écriture, c'est le lieu du corps. Vous parlez beaucoup de sexus d'Henri Miller, qu'aurait été un déclic chez vous.
Encore une fois, le corps dit énormément de choses et il ne faut pas qu'il ait la gratuité dans ce mouvement, dans ce qu'on écrit. Et d'ailleurs, je pense que si les scènes de sexualité sont réussies, je le dis sans vanité, c'est qu'elles sont sincères, elles sont écrites. Et d'ailleurs, il y a une même scène jouée, écrite avec Aldo qui fait l'amour par intérêt et Aldo qui fait l'amour par amour, par passion, et c'est plus du tout la même chose. Et je mets ça en miroir aussi. Comme disait Madame Claude, il y a deux choses qui marchent bien dans la vie, la nourriture et le sexe. Et elle disait, j'étais pas très doué en cuisine. On a aussi une forme de, c'est pas de l'impudeur, pas du tout de parler de sexualité. Ce qui me frappe toujours, que quand on est dans une société vraiment de l'image, aussi au sens large de la pornographie, mais quand c'est écrit, ça marque Il y a comme quelque chose, peut-être parce qu'on n'est pas habitué à lire beaucoup de sexualité en littérature, mais c'est quelque chose qui choque davantage qu'une image qu'on pourrait voir sur Internet, en fait. C'est très étonnant.
Il y a juste une petite chose, pardon, que là, on s'aperçoit que souvent chez les hommes de pouvoir, enfin là, en l'occurrence, il y a un lien direct entre cette volonté de puissance et la libido. Et on le voit, on en a des scandales à disposition.
On va vous entendre, Joseph Incardona, lire un autre passage où on voit aussi que justement dans cette façon que vous avez d'écrire, c'est pas la retenue, je veux dire, qui vous guide, ni les bons sentiments. Vous parlez cru, en tout cas le narrateur parle cru.
Aldo sait, le moment est arrivé. Sur l'échiquier, il attend qu'elle bouge sa pièce. C'est le jeu. Il n'y a pas d'autre possibilité, trop gâtée, trop écoutée, trop plainte, choyée, soutenue. La coach, la femme de ménage, la décoratrice, les copines, trop de femmes autour d'elle, trop de condescendance partagée. Instinctivement, sans pouvoir poser dessus une réflexion liée au libéralisme, à l'uniformisation des marchés ou à son corollaire qui est l'atomisation de la société, Aldo a compris que le monde devient femelle, que mari et père sont surchargés de travail, que leur taille s'épaissit, qu'ils deviennent myopes. Et s'il y a quelque chose à prendre dans ce monde où tout se confond, il l'obtiendra en restant mâle, en jouant sur le paradoxe de l'émancipation des femmes, ce qu'elles gagnent, ce qu'elles perdent. Ses rivaux dans ce domaine sont les immigrés latinos bourrés de testostérone écumant la ville depuis le boom de la salsa, pêche miraculeuse à la femme blanche. Mais Aldo joue dans une autre catégorie. Son biotope, ce sont les lignes d'un cours de tennis, prélude aux chambres à coucher des Madame Bovary. Dans l'économie du dominant-dominé, la privation et l'humiliation sont le ressort. Odile lève son visage vers son professeur, il la regarde, amusée. Elle ne rit pas. Car tout ça se cassera la gueule malgré la chirurgie esthétique, l'entretien du corps, la frustration des régimes. Tu sais très bien comme tout ça va finir, Odile. Ok, mais je vais te dire un truc, ma belle. À quoi sert tout ça si c'est pour ne pas en profiter? À quoi, bon sang? Le moment est venu de sacrifier sa reine. Odile lève la tête, ses traits se crispent quand elle prend la main de son professeur et la pose sur son ventre. C'est là, dit-elle à Aldo, c'est là où je veux que tu sois.
Merci Joseph Incardona, qu'on voit, c'est nécessaire parfois d'être cru et de ne pas s'embarrasser, en tout cas votre narrateur, sa vision du monde, Aldo, qui n'est pas le narrateur mais l'un des personnages, s'embarrasse assez peu de bons sentiments.
Bah oui, il faut une crédibilité entre... Tous ne parlent pas de la même manière, tous ne voient pas le monde de la même manière, donc je ne peux pas faire raconter à Aldo quelque chose avec un point de vue qui ne serait pas le sien.
Joseph Incardona, vous citez beaucoup d'autres écrivains dans ce livre, vous citez Balzac, hein, à l'orée d'un chapitre, derrière chaque fortune il y a un crime. Vous citez aussi le grand écrivain qu'on connaît assez peu, d'ailleurs grand écrivain suisse, Ramu, on dit Ramu d'ailleurs, non?
Oui,
Céline disait...
Ramuse, mais en réalité on dit Charles Ferdinand Ramu.
Ouais. Voilà, Tolstoï, Chandler qui sont présents, on trouve même un conseil d'écriture de Norman Mailer, page 338, à propos de l'écriture de romans. Norman Mailer donnait ce conseil aux jeunes auteurs: écrivez selon votre intuition, vérifiez vos sources après coup, la plupart du temps vous aurez mis dans le mille sans avoir empiété sur votre élan créatif. C'est une manière de payer aussi un tribut à ces hommes qui ont beaucoup compté.
Oui, c'est une façon de mêler littérature et réel aussi, c'est une façon de mélanger ce... Pour moi, le monde réel et le monde fantasmé, le monde qui se passe dans ma tête, sont deux choses qui s'entremêlent en permanence. Et donc, littérature prend... Je cite Griselie d'Israël, une magnifique auteure qui était...
liée à la prostitution.
Voilà, qui s'est pas toujours fait des amis dans le monde féministe, qui revendiquait la prostitution comme une vraie vocation pour elle. Et en même temps, quand j'étais petit, j'allais à l'école, je la croisais. Parce qu'elle était officier dans ce quartier des Paquis, qui est le Red Light District de Genevois. Et en fait, des années plus tard, j'ai su qui c'était, j'ai commencé à lire ses livres. Et donc, je la mêle dans ma propre fiction. Je mets son carnet de balles de courtisane en abîme avec un de mes personnages. Voilà, parce que pour moi, c'est un aller-retour entre l'imaginaire et le réel. C'est quelque chose qui s'alimente en permanence.
Ça vous plaît, Christophe Pavio, ce conseil de Norman Mailer? Écrivez selon votre intuition, vérifiez vos sources après coup. Ben c'est comme ça que vous bossez?
Oui, ça ressemble à ce que je peux faire. C'est-à-dire que je parle d'une région qui s'appelle Sweetwater, qui est au milieu du Texas. Je ne m'y suis jamais rendu. Je connais pourtant le quadrillage, le plan de la ville, qui est une petite ville de 10 000 habitants. J'aimerais bien m'y rendre. Un jour, j'ai écrit un roman sur Los Angeles. Je n'y avais passé qu'une journée et demie. Et c'était un gros roman, c'était vraiment à Los Angeles, et je n'y suis allé que des années après pour vérifier. Et ça tenait debout.
Mmh, mais là, c'est quoi, c'est un parti pris de ne pas aller enquêter
C'est un peu le hasard.
Vous pourriez y aller, enfin, c'est pas
je
le hasard.
Je pourrais y aller avant et ensuite écrire sur ce que j'ai vu, et ça m'est arrivé. Par exemple, avec Madagascar, j'ai pu écrire des textes sur Madagascar, et j'y étais allé.
Et le Windsor, vous connaissez bien, vous
voilà, en faites. Voilà, il n'y a pas d'ordre logique. Là, j'avais envie d'écrire cette histoire sur le Texas. J'irai sans doute voir un jour, bien que ma femme n'ait pas tellement envie d'aller dans cette foire aux serpents.
Ah oui, on va en parler. Mais il n'y a pas parfois un doute en se disant, tiens, je vais raconter, je dois par exemple à mes lectrices, à mes lecteurs, le fait d'y être allé. Vraiment, beaucoup d'écrivains disent, voilà, j'y suis allé, je ne pourrais pas écrire si j'y étais pas allé.
Ouais. J'écris en égoïste total, je ne pense jamais aux lecteurs, absolument jamais. Donc c'est pas bien de dire ça, je sais, mais je le dis quand même. Je ne pense qu'à moi-même et je veux me faire plaisir et être totalement libre, comme je le disais précédemment. Et à aucun moment je pense à une réaction quelconque de qui que ce soit. Même j'ai réussi à m'éloigner de la peur d'écrire en pensant au regard de mes parents. Ça fait longtemps que j'ai oublié maintenant.
Donc ça,
c'est difficile à passer quand même. Ouais. Quand ma mère m'a dit l'autre jour, on a vraiment très très envie de tourner les pages, c'est vrai, mais c'est quand même toujours aussi tordu. Hein. Mm. Bon, ça me fait un peu mal quand même. Ça fait peur quand même. Même si on a 50 ans, on a encore peur. Hein.
On va continuer avec vous, Christophe Pavio, et un autre. Vous entrez dans un autre biotope. Hein. On est au Texas avec vous, parmi les deux frères qui ont le don de maîtriser l'art de la capture du serpent à sonnette, du rattlesnake. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Suède.
Oui, voilà, dernier album, Beyond the Outskirts.
Que vous citez
en exergue. Oui.
Exactement, Brett Anderson qui dit, on le cite, « Avant toute chose, il faut être attentif à ne pas confondre la vanité avec l'insécurité. » On l'écoute.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Beyond the Outskirts. C'est le choix de Christophe Pavio, l'horizon à main nue chez Lattès. Pourquoi ce choix musical, Christophe Pavio?
Ça retranscrit très bien la musique qu'écoute Howard et Gary. C'est pile poil dans la période qu'ils affectionnent. Donc c'était logique de choisir. Et c'était aussi, comme on l'a dit précédemment, Brett Anderson, c'était la phrase en exergue, était donc le chanteur de Suède, ce groupe. On a écouté.
Christophe Pavio, c'est votre 12e roman, toujours sonnant, jamais trébuchant, toujours très très tenu, malgré leur grande liberté. Et c'est le cas de L'Horizon à main nue, donc, qui paraît chez Lattès, donc loin de la Bretagne, puisqu'il nous emmène au Texas, à Sweetwater, dans une famille où on chasse le rattlesnake, le serpent à sonnette. Alors, une famille, ou plutôt ce qu'il en reste, puisque le père est mort dès les premières pages laissant ces deux garçons sans père, donc, mais avec leur mère, Julia, une sorte de mère courage, qui se déploie pour leur donner une bonne éducation, travailler, garder le petit pavillon coûte que coûte, malgré les banquiers.
Voilà. On revient aux banques qui les harcèlent, et effectivement, au bout d'un moment, ils vont devoir quitter cette petite maison et vivre dans un mobile home et au milieu d'un terrain de caillasse.
Oui, parce qu'on les cambriole en plus, voilà, mais on va pas tout raconter. Et ces deux frères, donc c'est Howard et Gary. L'un beau comme un dieu, l'autre avec un visage
disgracieux,
mais qui plaît. quand même au film, puisqu'il est une sorte d'aura, et qui tous deux se réunissent, alors sont vraiment unis, quoi, vraiment
très unis,
deux frères, et notamment dans l'art de capturer les crotales. Alors c'est vrai qu'on plonge dans un univers dont j'ignorais tout, enfin il y a des raisons, hein. Je suis pas non plus allé au Texas encore, en tout cas ces foires aux serpents à sonnette avec différentes attractions, on appelle ça des round-up, donc il y en a un à Sweetwater. Donc...
qui est un des plus connus aux États-Unis.
Donc ça, vous êtes documenté, par exemple,
oui,
parce qu'on voit...
Il y a des Japonais qui vont là-bas, voilà. Il y a des gens qui viennent du monde entier aujourd'hui.
De dépeçage de crotales, friture de crotales.
Oui, oui, oui. Il y a des... On fait ce qu'on appelle aussi du milking, c'est-à-dire qu'ils retirent le venin des crotales sur le rebord d'objets qui ressemblent à ce qu'on peut voir dans les cours de chimie quand on est plus jeune. Il y a aussi des ballons de baudruche qui se font éclater. Il y a des gars qui jouent de la guitare avec des bandes de scotch autour des chevilles pour pas... voilà. Et ils sont au milieu d'une fosse avec 5000 serpents, je sais pas combien.
Des serpents dont on coud aussi les gueules pour que les enfants puissent les
toucher. Ça peut arriver qu'on couse aussi la gueule pour qu'on puisse les approcher.
Ouais. Et alors vous le disiez tout à l'heure, bon, parce qu'en fait ce roman et l'histoire, donc très beau roman sur cette amitié de frères, non, cette fraternité entre deux frères, pour le répéter, qui se débrouillent, donc ils sont d'abord enfants, donc on les suit, ils deviennent adolescents, et puis ils vont rencontrer un couple. Et là, ça va dégénérer, vous parliez tout à l'heure, on va pas dévoiler trop, mais il y a une histoire, une idée formidable qui se... ce braquage avec des serpents à sonnette qui servent d'armes, d'outils. Mmh. Vous disiez tout à l'heure, je suis parti de le serpent à sonnette et le braquage. Mais qu'est-ce qui fait que, sans y aller, vous reteniez une image comme ça pour vous lancer dans le roman, comme hypothèse en disant « ouais, ça va marcher ». Qu'est-ce qui fait que vous vous lancez là-dessus et pas, pourquoi pas, comme chez Iñárritu d'ailleurs, il y avait les combats de... J'ai pensé d'ailleurs à ce livre, « Amour chienne », voilà, sur ces combats de dog, pour le coup.
Tout à l'heure, Joseph parlait de plan, la façon dont il construisait ses textes. J'agis différemment, j'ai un simili-plan, c'est-à-dire que si on devait découper mon texte en alphabet, je dirais que je vais du point A au point F, et j'ai des passages obligés, B, C, D, E... Et donc ça, c'est des virages obligatoires que je connais. Donc ça m'amuse que moyennement de prendre ces virages-là. Mais je sais qu'entre tous ces virages, il y a des petits lacets qui, au moment où je les écris, me sont encore inconnus. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est les petits virages inconnus. Mais il y a une sorte de plan. J'écris la fin en général au début pour savoir où je vais. Je vais savoir où je vais atterrir. Et il y a ces virages obligatoires et ces petits lacets qui m'intéressent.
Quand même, ça naît comment? Quelles sont les sources, en fait? Parce que vous dites, bon, braquage et serpent à sonnette, mais comment ils sont apparus?
Comment ça naît? C'est juste une intuition. Braquage, banque, serpent à sonnette. Et à partir de là, j'élabore une histoire avec deux frères. Je sais pas, c'est un flash, je sais pas, je théorise pas mes textes, je ne les réfléchis, en fait, je n'y réfléchis pas, c'est ça qui est complètement...
Vous avez peur des serpents,
Oui, je veux dire, je suis pas fan des serpents, mais je suis pas dans ceux qui auront un serpent à la maison, sous la table basse, non, ou dessus.
En tout cas, c'est étonnant, on va vous écouter lire Christophe Pavio, parce qu'on a vraiment l'impression que vous avez passé partie de votre vie avec les serpents, donc j'ai choisi un passage, justement, en plein, dans ce round-up, dans cette foire aux serpents à sonnette, de Sweetwater.
Ils arrivent dans cet enclos de palissades où roupillent seulement quelques spécimens. Ils sont enroulés dans leur coin avant d'être enrôlés pour un numéro qui attire souvent la foule. Le mec installé là-dedans porte des bottes montantes, le préservant des morsures. On devine aussi la rigidité de ses jambières sous son pantalon. Il gonfle un ballon de baudruche, s'amuse à relâcher l'air en étirant la valve. Ça fait un bruit de trompette qui fait rire l'assistance. Il finit par faire un nœud à ce ballon rose. Avec une pince, il attrape un serpent arrondi comme une grosse bouse de vache séchée. La bestiole pendouille au bout de sa pince avant de retomber sur la table centrale du stand. L'homme, les yeux dissimulés sous la visière d'une casquette alourdie de badge, exhibe son ballon sous les fossettes sensorielles de l'animal, situé juste sous ses narines. Les anneaux vibratiles de la queue du Diamondback grésillent fort malgré les appels micro. La musique d'ambiance et les bruissements de la foule. Le crotale ne bouge pas, excepté sa queue. Il prévient. L'attaque est imminente. Tchac ! Il se détend, sa gueule s'étire, découvrant des gencives roses et deux puissants crochets. Paf ! Le ballon éclate, le public sursaute puis rigole de sa propre peur. Howard et Gary se moquent bien des rires alentour. Eux, ce qui les excite, c'est la trajectoire du serpent. Ils rêvent d'une erreur du jugement, que le type à la casquette s'approche trop imprudemment et que les crochets venimeux se plantent dans sa main. Ils encouragent le serpent. « Vas-y, mords-le, mords-le !»
Merci Christophe Paviot. L'horizon à main nue, c'est chez Lattès. Alors, qu'est-ce qui vous fascine autant? Moi, ce qui m'a marqué avec ces serpents, c'est qu'ils sont, dans votre livre, à la fois des prédateurs,
oui,
mais des proies. Puisqu'en fait, on les capture, ils deviennent même des outils, puisque l'homme, enfin vos deux personnages, s'en servent comme instrument pour leur braquage. Qu'est-ce qui vous a fasciné autant chez ces animaux pour les mettre au centre de votre fiction?
Je crois que j'en ai peur moi-même, pour commencer, et beaucoup de gens en ont peur. On les met en spectacle, on vient les voir de très loin. Je disais tout à l'heure, des Japonais peuvent faire le voyage pour aller à Sweetwater au Roundup. Les gamins sont là derrière des plexiglas autour de ces pits qu'on appelle, donc ce qui sont les fosses, et tout le monde est fasciné par ça, même si dans la contrée, dans ce pays, tout le monde connaît la chasse au crotal, mais tout le monde n'y participe pas, évidemment.
Et est-ce que ces serpents sont aussi une forme de métaphore pour ces deux frères qui font, c'est aussi l'apprentissage d'une sauvagerie, l'horizon à main nue? Comment on se débrouille, comment on trace son chemin dans un monde qui veut pas de vous? Comment devenir serpent presque? Comment attaquer?
Oui, puis on peut constater qu'une forme de métaphore aussi, ce sont des gars plutôt bien, mais ils sont dangereux. À leur insu, ils n'en sont pas tout à fait conscients. Et le temps passant, ils vont aller de plus en plus loin dans tout en ayant plutôt une notion de jeu. Ils se projettent jamais, comme ils l'apprennent quand ils sont chez les SEALs. Pour eux, ils ne vont jamais au-delà de la demi-heure.
Les SEALs, c'est-à-dire les commandos marines.
On leur apprend que pour durer, pour tenir, pour résister à toutes les formes d'agression, il ne faut pas se projeter au-delà de la demi-heure qui suit. Quand on envisage le futur, c'est là qu'on prend peur. Et toute la vie qu'ils vont mener, leur vie, ils vont l'amener de cette façon-là. Ils n'iront jamais voir au-delà de la demi-heure qui suit. Ils ne vont pas se projeter. Ils sont dans le jeu. Ils recherchent l'adrénaline. Ils prennent juste conscience à un moment donné, à l'issue de ce passage chez les SEALs, donc dans la Navy, qu'ils ne sont pas aussi médiocres qu'ils l'ont toujours imaginé.
Et on les aime, ils sont attachants. Alors que paradoxalement, ils font des choses pas terribles, loin de là, même quand ils pensent faire le bien, d'ailleurs. Voilà, puisqu'ils se servent constamment. Ils vivent vraiment avec les serpents.
Ils sont attachants parce qu'ils sont attachés à leur famille. C'est la notion de famille, elle est importante. Ouais. C'est ça qui les rend attachants.
Ça, c'est dans tous vos romans. Ouais.
Souvent, oui. Même si je veille à ce qu'ils soient tous absolument différents, puisque je ne veux pas me répéter, je m'amusais à chaque fois. Donc, ils sont attachants, même s'ils font des exactions qui sont absolument insupportables, parce que je pense qu'il y a ce lien familial très fort avec leur mère et leur père décédé. Ils sont respectables pour ça et ils peuvent tout faire à partir de ce moment-là.
Et eux, ils ont surgi comment? Ces deux frères qui sont presque mythologiques, ils sont différents physiquement.
Ça se croise, oui.
Ça se croise. L'un aime les garçons, l'autre aime les filles. C'est un vrai couple, c'est un couple de frères.
Oui, je trouvais, en construisant le texte, j'avais un peu peur que ce soit caricatural quand même, parce que l'un est beau, il est homosexuel, l'autre est laid.
Et hétérosexuel.
Et il y en a un qui est né 10 mois avant l'autre. Voilà, ils sont presque jumeaux en fait. Et donc, il y a cette idée de domination aussi de l'aîné, que l'autre lui reprochera à un moment donné, le plus jeune. Il y a aussi, ils s'adorent, mais une forme de rivalité aussi qui est au creux du texte.
Alors sur cette éducation sentimentale, vous branchez justement une intrigue aussi de genre. On en parlait avec Joseph Incardona tout à l'heure, avec des scènes de films noirs chez vous, plutôt films de scènes d'action, de western moderne. Moi, j'ai pensé à la fois à Brokeback Mountain et au film avec Patrick Swayze, Point Break. Voilà, où il y avait ces braquages.
Gentil, c'est des films sympas.
C'est des films sympas, mais non, à cause du motif justement du braquage, qui est pas fait justement, contrairement à vos personnages, Joseph Incardona, par rapport à du gain.
Par nécessité.
Je voudrais lire un passage.
Que les tiens, finalement.
Je sais pas, en tout cas, eux, ils recherchent juste l'adrénaline et éventuellement un peu d'argent, mais ils peuvent vivre avec presque rien.
Chaque geste a été répété des centaines de fois dans le garage. Ils exécutent un entraînement à la fois simple et élaboré, soumis à une préparation tenace. Avec ce sac grand ouvert en vrac au guichet, normalement, le personnel comprend. S'ils n'ont jamais vécu cette scène dans le réel, ils l'ont au moins aperçu dans des films ou lu dans des romans. Le message est clair. Un peu moins d'une dizaine de serpents crissent de tous leurs anneaux. Ils se contractent immédiatement en position défensive et font du boucan avec leur bruiteur. Le bruiteur, c'est la queue, de l'animal. Les clients se plaquent contre les murs. Un type en polaire a même escaladé le comptoir et on dirait que les torsades contenues dans ses intestins ont aussi escaladé les élastiques de ses sphincters. Ça commence à sentir autre chose que le reptile par ici. À l'aide de sa pince, Gary saisit un gros diamondback à l'arrière de la tête. Il fonce dans les bureaux à adjacent et guide le reste du personnel vers l'arrière du comptoir. Avec les collègues, il vérifie qu'aucun individu ne traîne aux toilettes. La pince alourdie du rattlesnake appuie sur la poignée, un coup de pied pour plaquer la porte contre le mur et s'assurer que personne n'est planqué derrière. Rien, Gary se propulse vers le comptoir, etc., etc., etc. De même que chez Joseph Incardona, il y a un plaisir particulier, vous parliez des virages et des petits lacets, à jouer avec les codes du film de genre. Là, on est dans l'action, on est dans le cinéma, là, vraiment.
Depuis que j'ai terminé ce texte, j'ai la conviction que c'est plus un film qu'un livre, de toute façon.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Je cherche une adaptation, je vais être clair. Mais franchement, j'en suis convaincu.
Au moins, c'est dit.
Ça fait 20 ans que je suis publié, je n'ai jamais prétendu quoi que ce soit de cet ordre-là, et je crois que pour la première fois, c'est un film. Mais bon, ou une série, me disent d'autres, mais bon, peu importe. Mais
bon, bah, voilà, vous avez passé
tout
votre
message. Le message est passé. Mais disons que...
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas abouti encore dans sa forme, vous pensez qu'il faut un film pour qu'il trouve sa dimension?
Je trouve que les scènes sont très visuelles. Tout ce que je décris est très visuel. On imagine bien les lieux, les situations.
Vous êtes extrêmement confiant dans votre fiction. Joseph Incardona disait mes scènes d'amour sont réussies. Christophe, mes scènes d'action sont
oui,
bien.
C'est pas très modeste.
Je pourrais le dire.
J'abonde. C'est pas très modeste, mais voilà. Je trouve que, enfin, sans avoir une volonté particulière de rendre les choses visuelles, au résultat, j'ai l'impression que on voit les choses. Pour moi, je crois que c'est un film. Comme je disais précédemment, je ne l'ai jamais pensé avant.
On voit parce que c'est bien écrit aussi, parce que les mots sont bien en place.
Là, c'est le langage. Là, je ne vais pas me prononcer sur le langage, même si
vous cherchez justement une langue particulière. Oui. Vous travaillez sur les sensations.
C'est important. Je ne vais pas paraphraser Dian, mais qui aime beaucoup la notion de langage. Je pense que c'est important, effectivement. Je ne vais pas dire que c'est extrêmement sophistiqué ce que j'écris, mais je sais que j'aime bien les petites rimes planquées un peu dans mes phrases. J'aime ça. Quoi. La notion de langage est hyper importante.
Les rimes planquées.
Voilà.
Ouais, ouais.
C'est hyper important pour moi.
Et la précision, le mot cisailler qui revient très souvent aussi.
Peut-être. Ah. Oui, la précision, mais les mots sont importants.
Dian, c'est quelqu'un qui a compté beaucoup pour vous, Joseph Incardona.
Oui, ouais. Surtout le Dian, on va dire, des années 90, qui pour moi, tout d'un coup, j'ouvre un livre d'un écrivain français de l'époque, et je me dis, tiens, on peut écrire avec cette liberté de ton, avec cette désinvolture, avec cette force, et une forme d'élan. Et un souffle, il y avait un souffle qui pour moi était très important.
On parlait tout à l'heure de la notion de territoire à l'entrée de cette émission. Quel territoire choisir pour les fictions justement qu'on bâtit? Vous parliez, Joseph Incardona, de cette Genève, l'autre Genève. Hein, et au fond, c'est aussi le territoire qui donne la forme à un roman. Quel besoin vous avez, vous, Christophe Paviot, d'aller chercher, ce qui n'était pas le cas hein, forcément dans des romans précédents, mais d'aller chercher en Amérique les ressorts de votre fiction à l'horizon à main nue? Qu'est-ce que l'Amérique vous apporte que vous ne trouviez pas en France? Vous auriez pu trouver la même violence.
Il n'y a pas beaucoup de sympasonnettes en France. Hein,
non,
je vais commencer.
Exactement.
Je sais quoi c'est. Hein, je vais pas le faire avec des vipères ou des couleuvres. Voilà. Mais c'est quand même mon cinquième texte qui se situe aux États-Unis, quand même. Mmh.
Oui, il y a un tropisme.
Voilà, de toute façon, quand j'écris quelque chose, je n'ai pas envie d'être moi. Alors, c'est arrivé, j'ai eu 2-3 autobios, mais j'évite d'être moi, j'ai envie de rêver, j'ai envie de me porter, j'ai envie de camper un personnage, c'est comme du théâtre ou du cinéma. Et les États-Unis, je trouve que c'est un terrain qui me convient, parce que je fantasme, je ne pense pas que j'aimerais y vivre, peut-être à part à Martha's Vineyard, peut-être, au large de Boston. Mais franchement, c'est un très beau terrain de jeu, c'est cinématographique, c'est ce qui m'intéresse.
Mais avec de la musique anglaise?
Avec de la musique anglaise. C'est là le croisement. Voilà. C'est un autre croisement.
Dernier mot, on se quitte là-dessus, on conclut là-dessus. Le mot de fantasme qu'a prononcé Christophe Paviot, voilà, l'écriture aussi a besoin de relever aussi du fantasme, de la projection dans un autre monde, Joseph Incardona.
Mais je crois que, voilà, j'ai pu aussi situer des romans ailleurs, que là, c'est un roman dans un lieu très concret, mais c'est vrai que je crois qu'il y a toujours cette idée de fantasmer même le lieu vécu. Voilà, bigger than life, pour paraphraser les Américains, être un peu plus grand que la vie. Je crois que la littérature est un territoire, est un pays. Mmh. En tout cas, pour moi, je le conçois, que c'est un lieu d'ancrage. Et effectivement, on a cette possibilité d'être un peu plus grand que la vie grâce à la littérature et puis de la magnifier aussi.
Et de jouer.
Et de jouer avec
comme
ça.
Comme vous disiez. Ouais. Vive le jeu, Vive la littérature. Merci beaucoup, Joséphin Cardona. Merci beaucoup, Christophe Paviot.
Merci à vous.
Voilà, deux voix qu'on n'entend pas souvent, qui jouent avec les codes, qui les brouillent et qui donnent surtout beaucoup de plaisir. Je vous incite à lire ces deux livres. Voilà, vous échapperez. C'est mordant. C'est cru, parfois. Enfin, c'est tout ce qu'on aime. Et voilà. Et Henri Miller plane un peu sur ces deux livres. Christophe Paviot, L'horizon à main nue, c'est chez Lattès. Joséphin Cardona, La soustraction des possibles, chez Finitude. C'était Le temps des écrivains avec Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Éric Boisset à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter. Podcaster à l'infini cette émission sur franceculture.fr en compagnie de Joséphin Cardona et de Christophe Paviot.